Allez, allez, on se dépêche, allez!
Vie étudiante et associative.
C'est la grande voile!
Politique, société.
Mais y'a pas de voile, abruti!
Culture.
Immersion dans 10 secondes!
Et même du sport.
Take that out. Four forward. Four forward, drift into the right level.
Tout le monde est à son poste?
Du lundi au jeudi, 19h-20h, le sous-marin. La quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
Bonsoir à tous et bienvenue à bord du sous-marin. Tout à l'heure, en deuxième partie d'émission, nous recevrons Bérangère Cato qui viendra nous parler de son projet de café culturel associatif, le Bazar. Mais d'abord, qui sont les agriculteurs? Comment le devient-on? Quelles difficultés sont rencontrées à l'installation? Les clichés persistent-ils? Karine Lemarchand a-t-elle révolutionné leur vie? On en parle tout de suite.
En tout cas, le salon de l'agriculture lui-même fermera ses portes dimanche et comme tous les ans, on va le découvrir la nuit. Vous savez, quand les visiteurs sont partis, c'est le moment de soigner les bêtes et de faire la fête.
Ah, c'est toujours un plaisir d'entendre ce bon vieux Jean-Pierre Pernaut. Antoine Lardeux, vous êtes président des jeunes agriculteurs de Maine-et-Loire. Les jeunes agriculteurs, c'est un syndicat professionnel agricole dont les responsables ont moins de 35 ans. Bonsoir.
Bonsoir.
Joël Boissard, vous êtes membre de la Confédération Paysanne, un syndicat d'agriculteurs qui défend l'agriculture paysanne. Et on va voir tout à l'heure ce que c'est précisément que l'agriculture paysanne. Bonsoir.
Bonsoir et merci de nous accueillir.
Merci à vous. Et vous êtes accompagné de Baptiste Boré. Bonsoir.
Bonsoir.
Et vous allez bientôt, vous êtes en projet, vous allez vous installer.
Oui, tout à fait.
Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler, Antoine Lardeux, Joël Boissard et aussi vous, Baptiste, de ce que vous, en tant qu'agriculteur, de votre métier, de ce que vous exercez en ce moment, en dehors de vos activités de jeune président et de membre de la Confédération?
Je vais commencer. Donc, oui, voilà, avant d'être président des jeunes agriculteurs, je suis avant tout agriculteur. Donc je suis installé dans le nord du département avec ma compagne, mes parents et deux tiers. Donc on est 6 associés sur une exploitation où on transforme des pommes en cidre et jus de pommes. Et on a une activité aussi de caprin, donc en agriculture biologique. Donc aujourd'hui, moi, je représente les jeunes agriculteurs, un réseau de jeunes de moins de 35 ans, comme vous l'avez dit, où on défend avant tout type d'agriculture et surtout, on se force de ne pas opposer les types d'agriculture. Donc moi, je suis en agriculture biologique, mais pour autant, on défend bien l'ensemble des professions et des activités qu'il peut y avoir dans la profession agricole.
On va revenir sur les différentes professions et on va voir si on les oppose ou pas, justement. Joël Boissard, vous êtes vigneron?
Alors, je suis paysan vigneron dans l'est du département avec mes deux fils, aussi en agriculture biologique. Et donc, nous, à la Confédération paysanne, on défend ce qu'on appelle l'agriculture paysanne de progrès. Qui est surtout basé sur le lien avec la société, avec les citoyens. L'idée, c'est d'être au plus proche de nos amis, les consommateurs, et de pouvoir leur proposer une alimentation saine, quoi. Donc, on promeut l'agriculture biologique, mais pas que. On est aussi, y a beaucoup d'adhérents chez nous qui font de l'agriculture conventionnelle, mais qui sont très proches de nos valeurs et surtout modifient leur système d'agriculture vers quelque chose de beaucoup moins intensif et surtout qui préconise, qui promeuvent l'autonomie sur leur exploitation.
C'est ce que vous défendez, du coup vous êtes contre d'autres manières de faire de l'agriculture.
On essaye de convaincre nos collègues qu'effectivement d'avoir une agriculture qui soit moins intensive et surtout qui propose moins de pesticides et qui propose surtout une alimentation beaucoup plus saine. On en revient toujours au même. Hein. Ce qui compte, c'est que nos amis, les consommateurs, soient, comment dirais-je, sûrs de leurs produits, sûrs de leur alimentation, quoi, hein. Et qu'en final, le paysan vit dignement de son métier, ce qui malheureusement n'est pas toujours le cas, quoi.
On va revenir tout à l'heure, vous pourrez discuter justement de l'agriculture biologique et aussi de l'agriculture industrielle. D'abord, je voulais vous demander pourquoi est-ce que vous avez souhaité devenir agriculteur au départ?
Ah bah c'est surtout par atavisme, hein. Je crois qu'on est tous d'ailleurs... Tout le monde peut dire qu'on a des ancêtres qui sont paysans. Et puis, bon, le lien à la terre, hein, c'est quand même quelque chose d'important. Hein. La terre, c'est un bien commun. On sait qu'elle peut nous apporter beaucoup de satisfaction, beaucoup de produits. Ça nous permet déjà, même nous, de manger sainement, de boire sainement ce qui nous concerne, quoi. Hein. Et puis, bon, voilà, c'est vraiment être fier d'être d'être paysan actuellement, hein, c'est même, et toujours d'ailleurs, quoi, hein. Et je pense que on pourrait peut-être poser la question à un jeune, notamment bassiste, qui lui est dans son parcours d'installation, et on pourrait lui poser la question de savoir pourquoi il veut devenir paysan, quoi.
Eh ben on te pose la question, on vous pose la question, Baptiste.
Eh ben du coup, pourquoi être paysan ? Mon père est paysan, mon grand-père était paysan, mon arrière-grand-père était paysan. Je vais dire jusqu'à l'âge de 16 ans, pour moi un paysan c'était voilà, une personne que... Enfin un métier que je voulais pas faire. Je voyais trop mon père trimer...
C'était pas sexy quoi ?
Non, sexy non, je vais pas dire ça, mais voilà. Du jour au lendemain, je suis monté sur le tracteur, j'ai été avec les vaches, j'ai été dans les pommiers, j'ai eu un déclic en me disant pourquoi... Ce que mes ancêtres ont essayé de mettre en place, je le ferai partir pour un agrandissement alors que je peux reprendre de cette partie-là.
Mmh. Et Antoine Lardeux, c'est aussi une histoire de famille pour vous ?
Alors, ouais, moi c'est une histoire de famille, mes parents sont agriculteurs, mais à la base, pendant ma formation, alors j'étais resté quand même dans le domaine agricole, mais j'étais plutôt parti sur une formation dans le cheval. Et donc j'ai toujours dit que je reprendrai jamais l'exploitation de mes parents. Mmh. Sauf que voilà, le cursus de formation fait qu'on évolue. Et qu'il y a des opportunités aussi qui se présentent à nous. Et à la base, quand j'avais 22, 23 ans, c'était pas potentiellement faisable que je m'installe sur l'exploitation de mes parents. Et sauf que voilà, l'histoire fait qu'il y a eu un moment donné où ils ont eu besoin de moi pour venir les aider, qui fait que voilà, j'y ai pris goût, j'ai réappris un petit peu à apprendre les productions qu'il y avait sur l'exploitation, parce que je m'y étais complètement désintéressé depuis tout petit. Et donc ça a été pour moi un déclic, et aujourd'hui j'en suis très satisfait, et je suis fier aussi d'être agriculteur, fier d'avoir fait ce que j'ai fait aujourd'hui, même si voilà, l'actualité agricole aujourd'hui n'est pas simple, moi aujourd'hui je ne regrette rien.
En tout cas il y a ce déclic chez vous deux, on a entendu parler de ce déclic, de d'abord un petit peu un sentiment de rejet d'abord, et puis après on y revient. En tout cas d'après des études, en 2020, 30% des agriculteurs pourraient être hors cadre familial, c'est-à-dire pas issus d'une famille d'agriculteurs, c'est très peu. Comment est-ce que vous l'expliquez, Joël Boissard?
Oui, alors bon, ça c'est vrai que c'est un problème, mais nous on a quand même un avantage par rapport à un système d'agriculture intensive et conventionnelle, c'est-à-dire qu'on promeut beaucoup cette installation de jeunes agriculteurs et de moins jeunes d'ailleurs.
Quand, quoi, vous dites-vous, c'est la Confédération paysanne.
Confédération paysanne avec tous nos réseaux, quoi. Hein. Cette installation donc hors cadre familial, et on a, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on a la majorité des installations qui se passe donc c'est pour ça que je suis pas tout à fait d'accord avec le chiffre de 30%, quoi, hein. Il y a beaucoup plus d'orcadon familial qui s'installe, quoi, hein. Non aidé d'ailleurs, quoi, en plus,
c'est,
hein,
un chiffre qui est fixé pour 2020.
Je peux peut-être rajouter, nous les agriculteurs, oui, on travaille beaucoup sur la politique à l'installation. Aujourd'hui c'est à peu près 40% des jeunes qui s'installent avec les installations aidées, là je parle bien d'installations aidées, qui s'installent donc hors cadre familial, et pour à peu près un tiers de femmes. Ça, c'est les chiffres officiels. Donc certainement que d'ici à 2020, on aura un tiers de l'effectif agricole qui sera hors cadre familial. C'est une vraie richesse pour nous. Je pense qu'on est tous d'accord, tous syndicats confondus, pour dire que à partir du moment où on a des gens qui viennent de l'extérieur de notre métier, parce que ce n'était pas une habitude en agriculture, eh ben, ça amène de l'ouverture, ça fait changer l'état d'esprit des agriculteurs, ça fait aussi changer nos pratiques. Et grâce à ces gens-là, je pense qu'on fait évoluer l'agriculture plus vite que si on était resté cloisonné entre nous. Et ça, c'est une vraie richesse pour nous.
Baptiste Boré, vous voulez, excusez-moi, peut-être vous voulez rebondir.
Non, ce que j'ai besoin de me dire, c'est qu'on a mis, nous, des outils dans notre réseau, justement, pour aider ces hors cadres familiales à s'installer. Des outils qui s'appellent Terre de Liens, qui s'appellent la SIAP, hein, Coopérative d'installation d'agriculture paysanne. C'est d'ailleurs des associations qui seront présentes au Broquet Paysan samedi prochain. Donc, on peut inviter que les jeunes, puisqu'on est à Radio Campus, les jeunes viennent nous visiter et ils verront qu'on peut s'installer en agriculture.
On va en parler plus longuement à la fin d'interview. Pour l'instant, justement, on parle des agriculteurs hors cadre familial. Quels sont... Déjà, agriculteur, c'est un terme générique. Il y a plusieurs sortes d'agriculteurs et d'agriculture. Ça peut être une exploitation laitière, une production animale. C'est quoi les différents métiers de l'agriculture, justement, si on veut devenir agriculteur ? Parce qu'il y a plein de choses possibles.
Ah ben, y a plein de choses, il y a plein de filières, hein. Y a le maraîchage, il y a la viticulture, il y a l'élevage, il y a le laitier, j'ai parlé du maraîchage, on a peut-être à peu près fait le tour de... Il y a aussi les volailles, quoi, hein, l'aviculture.
Et il existe une formation pour chacune de ces filières ?
Ah bah tout à fait, hein. Il y a des formations qui sont faites par les chambres d'agriculture, quoi, hein. Mais il y a aussi des formations qui sont faites par nos réseaux, hein, qui sont complémentaires, hein, puisque il ne s'agit pas d'opposer, qui sont complémentaires les uns les autres, et chacun y trouve son bonheur en style de formation, quoi.
Après le problème, c'est quand on a acquis la formation, il faut pouvoir s'installer aussi. Entre 2000 et 2010, le nombre d'installations a baissé de 26% en France, selon les jeunes agriculteurs. Pourquoi ?
Alors, bah déjà des vraies incertitudes au niveau des productions et notamment des filières animales. Il faut savoir qu'à peu près 80% des gens qui s'installent aujourd'hui en agriculture s'installent dans les filières animales. Et donc c'est elles aujourd'hui qui ont pâti le plus de la conjoncture. Je pense à la filière porcine, à la filière volaille, mais aussi au lait, par exemple, après les années 2009, notamment avec la crise laitière. Aujourd'hui, la vache allaitante où... on a un vrai problème aujourd'hui de rentabilité dans ces systèmes qui fait que depuis 2010, on a du mal à renouveler des générations. Mais c'est aussi le fait des réformes de départ en retraite qui ont fait qu'on a décalé de quelques années certains départs de futurs cédants. Et qui fait que d'ici, pendant 3 ans, notamment dans le Maine-et-Loire, on sait qu'on a à peu près 1500 départs en retraite sur le département officiellement déclaré par la MSA. Et donc là, on a un gros challenge à avoir pour pouvoir les remplacer.
Un problème économique et de vieillissement de la population.
Et puis de réforme des retraites. C'est-à-dire que comme on a décalé un petit peu, automatiquement, des jeunes n'ont pas pu spécialement s'installer. On a eu aussi des problèmes dans le dispositif à l'installation, et notamment en 2015, où là, clairement, depuis le 1er janvier, on n'a pas pu installer de jeunes parce que l'Union européenne et la France ont sérieusement entaché le travail qui est fait, notamment dans les chambres d'agriculture, qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas encore officiellement installé de jeunes.
Jules Boissard de la Confédération Paysanne, vous êtes d'accord avec cette analyse ?
Alors, je vais compléter cette analyse pour dire qu'au niveau national, il y a 200 fermes qui disparaissent chaque semaine. J'ai bien dit, 200 fermes qui disparaissent chaque semaine. Et que la problématique, c'est qu'il n'y a pas une installation sur deux. Au contraire, il y a moins d'une installation sur deux par rapport à un départ en retraite, quoi. Alors pourquoi ça ? C'est qu'on a affaire à un problème de spéculation sur le foncier. Et bon, les jeunes, et les moins jeunes d'ailleurs, qui veulent s'installer, se butent sur ce problème-là. Et c'est pour ça que dans nos réseaux, on a mis des outils pour pouvoir installer ces jeunes-là qui ont affaire à ce problème de foncier.
C'est quoi ce problème de spéculation, justement ?
C'est-à-dire qu'il y a une raréfaction des terres agricoles, quoi.
Elles sont rachetées ?
Alors, soit par une artificialisation, les ronds-points, les autoroutes, les zones industrielles, puisque chaque commune veut sa zone industrielle ou sa zone artisanale. Donc ça, c'est un gros, gros problème, quoi. Et puis aussi, parce que effectivement, il y a les investisseurs étrangers qui arrivent et puis qui spéculent sur les terres agricoles, puisque ça devient donc une denrée rare, hein, donc tout ce qui est rare est cher, quoi.
C'est une question de place, en fait, c'est des endroits que...
Et in fine, on a des porteurs de projets qui veulent s'installer parfois sur des petites surfaces, notamment en maraîchage, mais pas que, hein, dans la vigne, un domaine que je connais forcément très bien, on a cette vraie problématique, quoi. Et donc il faut mettre des outils en place, et c'est ce qui est fait, nous, dans nos réseaux, particulièrement dans nos réseaux, et qui permet aux jeunes et aux moins jeunes de s'installer. Et
justement, Baptiste Boré, vous allez vous installer malgré ces difficultés. Comment est-ce que vous envisagez ça ? Est-ce que vous êtes bien conscient de ces problèmes ?
Oui, tout à fait. Pour commencer, moi, avant de m'installer...
Vous avez fait une formation d'abord.
Donc, j'ai un diplôme agricole, j'ai un BTS, une licence. Après, j'ai été travailler ailleurs en para-agricole. Donc, mon père voulait arrêter la viande bovine. Donc je compte revenir sur l'exploitation pour reprendre cette partie-là. Mais moi, je m'installe qu'au 1er janvier 2016. J'ai arrêté mon boulot au 31 décembre 2014. J'ai un an pour me préparer.
C'est quoi les démarches ? Comment on fait justement pour se préparer ?
Moi, je suis passé sur le statut de la coopérative d'installation en agriculture paysanne avec un stage paysan créatif qui me prépare sur toute une année à m'installer, à commencer à mettre en production mes légumes, parce que je vais faire des légumes essentiellement pour la RHD, mais aussi d'aller trouver des gens qui vont m'aider à construire un réseau d'entraide, à aller voir des consommateurs, à aller voir les cuisiniers des restaurations scolaires, pour pouvoir planifier mes légumes. Et le jour où je m'installe au 1er janvier, j'ai des légumes à produire. J'ai pas 9 mois à attendre avant d'avoir un salaire, de me dégager quelque chose. Parce que un légume, ça se fait pas en un mois, il faut du temps.
Et cette formation, elle est ouverte à tous ?
Elle est ouverte à tous, oui. Par rapport au stage paysan, au stage parrainage que propose la Chambre, on n'est pas obligé de s'installer avec les aides avec le stage paysan créatif, et c'est aussi ouvert aux plus de 40 ans, parce qu'on a quand même aussi beaucoup de jeunes qui s'installent qui ont plus de 40 ans.
Antoine Lardeux ?
Moi, je veux réagir, parce qu'on parle beaucoup de la SIAP, on parle beaucoup de ce que fait la Confédération Paysanne, notamment pour le maintien du foncier, pour l'installation des jeunes. Je pense quand même qu'il y a un gros travail de fait par les jeunes agriculteurs en collaboration avec les chambres d'agriculture, qui est un dispositif à l'installation qui a été plébiscité en 2013 par les assises à l'installation, qui avait été voulu par le gouvernement de François Hollande. Aujourd'hui, les résultats sont que les jeunes qui s'installent aujourd'hui avec les aides, et nous on estime que passer par le dispositif à l'installation permet aux jeunes d'avoir toutes les billes pour pouvoir réussir sa carrière professionnelle. Et aujourd'hui, 90% des jeunes qui rentrent dans ce dispositif-là, on les a encore 10 ans après. C'est un dispositif qui est où les autres catégories socio-professionnelles nous envient. On rencontre souvent les artisans, on rencontre souvent les commerçants qui viennent nous voir pour nous demander quel dispositif on a et comment on fait pour avoir de tels résultats. Alors, notre dispositif, il est perfectible, il y a des choses à faire évoluer, mais je pense quand même que faut s'y arrêter. J'avais quand même envie de rajouter, parce que c'est vrai que la SIAP propose un stage paysan. Il y a aussi des stages de parrainage qui sont proposés dans le dispositif officiel avec les aides notamment financées par le ministère de l'Agriculture. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres biais. Moi, je ne veux pas opposer les choses, parce qu'à la rigueur, il faut que ça soit complémentaire. Mais je ne voudrais pas faire croire que l'ensemble des jeunes passent par ces dispositifs, parce que ce n'est pas vrai.
Il y a plusieurs dispositifs.
Ils passent avant tout quand même par les dispositifs faits par la Chambre d'agriculture, notamment.
Fin mars, Bruxelles a validé le cadre national de l'installation qui permet aux jeunes agriculteurs justement de s'installer, d'avoir une aide financière pour s'installer, alors que la mise en place de ce cadre était attendue déjà depuis janvier dernier. C'est un soulagement ?
C'est un soulagement, ça vient beaucoup trop tard. Mais oui, c'est un soulagement quand même. Officiellement, aujourd'hui, les jeunes peuvent déposer leur dossier à l'administration. On sait aujourd'hui que les jeunes ne sauront pas quel financement et quelle dotation jeunes agriculteurs, parce que quand on s'installe via le dispositif à l'installation et qu'on rentre dans tous les critères, on a le droit à une DJA, on l'appelle comme ça, grosso modo, qui va osciller entre 13 et 15 000 euros de moyenne. Mais aujourd'hui, le cadre national a été validé, par l'Europe notamment. Mais maintenant, il faut que ça passe au Conseil régional, parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est du second pilier de la PAC, ça a été délégué par l'État français aux régions. Et donc aujourd'hui, voilà, il y a un travail, il y a tout un temps administratif qu'il faut attendre. Et grosso modo, les jeunes qui s'installent aujourd'hui ne sauront pas leur montant des JA avant le mois de juin. Mais bon, c'est quand même un soulagement qu'on puisse pouvoir commencer à retravailler sur le dispositif aidé aujourd'hui.
Oui.
Je pense qu'il ne faut pas uniquement se focaliser sur les aides, sur l'installation aidée, puisque c'est loin d'être la majorité. Donc il faut penser aux autres installations. Et justement, c'est là où ça se pose un problème au niveau politique, puisque les aides sont plafonnées d'une part, elles sont coincées, si je puis dire, par rapport à l'âge, hein, puisque c'est uniquement pour ceux qui ont moins de 40 ans. Or, on s'aperçoit que c'est la majorité des installations, ce sont des gens qui sont, d'une part, on en a parlé tout à l'heure, en cadre familial, mais aussi qui ont plus de 40 ans, de plus en plus, hein, puisque le départ en retraite, maintenant, on est jusqu'à 65 et on parle de 67, donc on a beaucoup d'installations, même à 57, 58 ans, dernièrement encore. Et donc, il faut effectivement parler des aides, hein, puisque pour celui qui s'installe à moins de 40 ans, on peut avoir besoin des aides, ce qui n'est pas forcément une finalité, parce que ce qu'il faut, c'est que son exploitation soit viable, quoi, hein. Donc, il ne faut pas toujours forcément compter que sur les aides pour pouvoir vivre de son métier. Tout à l'heure, je parlais de paysans qui soient heureux et puis dignes et qui soient surtout qui vivent dignement de son métier. Donc ça, c'est très important. Il c'est pas forcément d'aller vers des installations qui soient à gros capitaux, parce que là on s'aperçoit que de plus en plus, et là je fais allusion à SOS Paysans qui voient de plus en plus de dossiers de grosses structures qu'il faut aider, quoi, hein. Donc on s'aperçoit que des structures, entre guillemets, dites petites, arrivent à vivre dignement de leur métier et puis correctement. Donc voilà, je crois qu'il faut aussi effectivement parler des installations aidées, mais aussi bien mettre en focus les installations non aidées et dire à tous nos jeunes, puisqu'on a un public de jeunes qui veulent aller vers l'agriculture paysanne ou pas d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y a pas, effectivement, faut pas forcément opposer les systèmes, hein, chacun a ses qualités et ses défauts, mais il faut leur dire que voilà, il n'y a pas qu'un cursus spécifique, avec des diplômes spécifiques, avec un âge spécifique, avec obligatoirement avoir des aides pour pouvoir s'installer et de vivre dignement de son métier.
Antoine Lardeau, très rapidement.
Ouais, très rapidement, je veux juste rajouter que sur le dispositif à installation tel qu'il est fait aujourd'hui, les gens de plus de 40 ans peuvent aussi y prétendre, alors sachant qu'ils n'auront pas les aides au final, notamment la DGA et les taux bonifiés, mais ils peuvent très bien suivre le cursus de formation pour permettre d'acquérir plus de connaissances avant de s'installer.
Très bien, on va parler des différents types d'agriculture et des clichés liés au monde agricole juste après avoir écouté ça.
Le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Et on est toujours, vous êtes toujours en sous-marin, on parle donc agriculture et on a vu, on a déjà évoqué différents types d'agriculture et notamment les fermes industrielles. C'est là-dessus que je voudrais maintenant vous amener. Les fermes industrielles, on a l'exemple hein, en Picardie de cette ferme des 1000 vaches, on a trouvé ça, qui est destinée à abriter 1000 vaches laitières. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de ferme industrielle? Et je me tourne surtout vers la Confédération paysanne, puisque vous prenez une agriculture qui s'inscrit dans le respect de l'environnement.
Alors déjà...
Est-ce que c'est une conséquence d'ailleurs de réduction du nombre d'installations?
Alors déjà, le mot ferme ne convient pas du tout. Hein, c'est une usine. C'est une usine à vaches, c'est une usine à 1000 vaches, qui n'est à la limite qui va produire du lait, mais qui est surtout fait parce qu'il y a un méthaniseur à côté.
Hein, un méthaniseur ?
métalliseur, bah, c'est-à-dire qu'avec les lisiers ou les fumiers, si je puis dire, des animaux, on va faire du gaz. Hein.
D'accord.
Hein, donc c'est un système pour permettre de faire du gaz et qui est subventionné de façon très très importante par l'Europe. Quoi, hein. Donc l'investisseur comme Monsieur Ramry, qui travaille dans les travaux publics, à des entreprises de travaux publics, il a senti le vent venir en disant bah tiens pourquoi pas se faire un peu de fric avec ce méthaniseur. Donc surtout ne dites pas une ferme. Ça n'est pas une ferme, c'est une usine, quoi. Et les pauvres bêtes vont jamais manger un brin d'herbe, quoi. Ça permet de parler de l'agriculture paysanne, puisque vous allez demander ce qu'est la définition d'agriculture paysanne de progrès, et qui promeut une agriculture digne, j'en ai parlé tout à l'heure, mais digne aussi pour les animaux, digne aussi pour la terre c'est un bien commun, digne aussi pour l'eau c'est un bien commun, digne aussi pour l'air, qui est un bien commun, et en même temps, de façon à respecter le consommateur, et c'est pour ça tout à l'heure, je faisais allusion à un lien très très fort entre le citoyen et l'agriculture paysanne de progrès. C'est ce qui va se passer d'ailleurs samedi prochain au banquet paysan d'ailleurs. Hein. C'est là où on va voir tous les citoyens venir vers nous. On va leur expliquer ce que c'est que l'agriculture paysanne de progrès. Et c'est la grosse différence avec une agriculture industrielle, de l'agro-business, hein, pour revenir à l'usine des 1000 vaches, c'est de l'agro-business, hein, purement et simplement. Quoi. Ça n'a rien à voir avec de l'agriculture. Je ne sais pas si mon collègue...
Oui, Antoine Lindeux, parce que vous disiez tout à l'heure que vous étiez aussi là pour défendre tout type d'agriculture. Qu'est-ce que vous pensez par exemple de cette ferme des 1000 vaches, de cette usine des 1000 vaches
Alors, je défends tout type d'agriculture. Alors après, je n'irai pas défendre le type de la ferme des 1000 vaches aujourd'hui. C'est surtout pas ce qu'on défend, en tout cas, comme type d'installation, comme type d'exploitation qu'on voit demain. Après, c'est aussi la résultante. Vous parlez de consommateurs. Aujourd'hui, l'agriculture s'adapte aux demandes. Alors là, dans ce cas, dans la Somme, c'est clair qu'aujourd'hui, il n'a pas que le produit lait qui lui reviendra, mais c'est aussi parce qu'il va profiter d'un méthaniseur, des panneaux photovoltaïques, et ce qui fait la rentabilité d'ailleurs du système, et ça pose question quand même. Là, aujourd'hui, nous, ce qu'on veut en agriculture, c'est gagner de nos produits agricoles, de ce qu'on sort de nos animaux, de nos champs, de toutes ces choses-là. Mais je voudrais quand même rajouter sur le... Aujourd'hui, le consommateur, il est assez exigeant avec l'agriculteur, sur la qualité des produits, sur l'impact sur l'environnement qu'on peut avoir.
Il y a eu pas mal de sensibilisation qui a été faite à ce niveau-là.
Beaucoup de sensibilisation. Par contre, on pense, nous, que les consommateurs sont un peu schizophrènes. Ils ont tendance à avoir un discours de façade quand on parle avec eux et quand on n'est pas avec eux. Puis quand ils rentrent dans un supermarché, s'il n'y a que le prix qui compte. Et donc, ils vont acheter un produit qui, généralement, est le moins cher. Alors, évidemment, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais qui fait qu'aujourd'hui, l'agriculture essaye de s'adapter. Et on ne peut pas aujourd'hui attaquer la ferme des 1000 vaches et puis dire aussi à nos consommateurs, faites aussi attention à comment vous consommez les produits, parce que quand vous achetez du porc sans origine, par exemple, eh bien, ça vient d'exploitations que nous, on n'a pas spécialement en France et qu'on ne défend pas spécialement. Et ça, c'est un vrai problème.
Parce qu'en parallèle, il y a le bio aussi. Sans vouloir opposer, mais il y a le bio qui, on parlait de clichés, justement, on dit il y a le bio qui a été une mode, enfin qui revient à la mode, et heureusement, l'image fantasmée de l'agriculteur qui va élever des chèvres dans le Larzac et vendre ses fromages sur les marchés, parce que 63% des agriculteurs hors cadre privilégient le bio, il faut le rappeler. Et est-ce que c'est une mouvance crédible, est-ce que c'est quelque chose qui peut sauver l'agriculture et proposer une alternative et sensibiliser d'autant plus les consommateurs?
Je pense pas qu'elle... Je réponds, puis après je vous laisse. Je pense pas qu'elle sauvera l'agriculture. Clairement, aujourd'hui, il y a une vraie demande, et la demande, elle est croissante en agriculture biologique depuis une vingtaine d'années. Moi, l'exploitation que j'exploite, elle est en bio depuis 89, et depuis 89, on sait que ça se développe. Ça reste quand même assez marginal, 4 à 5% des surfaces selon les territoires, mais ça se développera, et je pense pas que ça ira, en tout cas, en descendant. Après, il y a aussi, et je pense que c'est pas que par l'agriculture biologique qu'on s'en sortira, parce que c'est pas 5 ou 10% de la surface qui va être exploitée en bio qui va sauver les meubles sur les problèmes de l'eau, les problèmes de pesticides, toutes ces choses-là. C'est vraiment que toute la masse agricole évolue dans ces pratiques, et je pense qu'on va dans le bon sens depuis une dizaine d'années maintenant quand même, où les agriculteurs, même de type conventionnel, font évoluer leurs pratiques. Et on le voit dans le département où, par exemple, sur le bassin versant de Loudon, dans le Segréen, où on avait des teneurs en nitrate qui étaient très importantes il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, on a réussi par un changement de pratique à faire évoluer toutes ces teneurs. Donc il y a encore des choses à faire, ça va encore évoluer, mais c'est pas que la bio qui résoudra le problème.
Je le vois ça, vous êtes d'accord? Vous avez vu ça évoluer aussi?
Alors, donc, je suis d'accord pour dire qu'effectivement, la bio, c'est pour l'instant encore très peu d'installations, très peu de paysans. Ceci dit, moi je pense qu'on peut aller beaucoup plus vite, mais là, il faut inverser la tendance politique actuelle qui favorise cette agriculture industrielle. Et en inversant le curseur et en mettant l'accent, notamment avec les aides sur l'agriculture de progrès, l'agriculture moins consommatrice de pesticides, parce qu'il n'y a pas que le bio. Hein, à la Confédération paysanne, on défend aussi d'autres types d'agriculture conventionnelle. Quoi, hein, et là, si on changeait le curseur, si on mettait l'accent sur des agriculteurs qui font attention à leurs pesticides, qui réduisent leurs pesticides, mais on va dans l'autre sens actuellement, parce que contrairement au plan certificat, on est en augmentation de pesticides, donc ça c'est gravissime. Et il y aurait, à la suite de ça, des aides spécifiques pour aider ces paysans, ces agriculteurs. Automatiquement, les produits seraient moins chers, donc seraient beaucoup plus accessibles. Et par rapport aux consommateurs, moi je mets un bémol, ce qui a été dit par mon collègue, par Antoine, parce que si dans les supermarchés, il y avait une vraie information de ce que les gens achetaient, pour manger, si c'était une vraie information, je dis bien, s'il n'y avait pas des publicités, allez, j'ai pas le mot, hein, peut-être un peu excessive, mais mensongère, quoi. Hein. Croyez-moi que le consommateur, il reverrait sa position et reviendrait vers des produits beaucoup plus naturels. Je dis pas forcément que du bio, mais beaucoup plus naturels et ferait attention à ce qu'il achète. Et nous, on préconise et on promeut l'agriculture locale, parce qu'en achetant des produits locaux, qu'est-ce qu'on fait? D'une part, on mange plus sainement, mais on favorise l'emploi, parce que ça, on n'en a pas parlé, mais c'est un grave problème. Il faut savoir que l'agriculture industrielle détruit les emplois, mais détruit de façon vraiment très, très importante. Alors que nous, dans notre système qu'on promeut dans nos réseaux, on reconstruit des emplois, on remet des emplois en jeu, et on est de ce côté-là en phase avec les citoyens par rapport à ça, qui nous soutiennent. Alors effectivement, il y a un décalage, et là je suis d'accord avec Antoine, entre le fait que nos citoyens soutiennent, évidemment, quand ils nous entendent, bah oui, au mieux aller vers une agriculture qui protège l'air, l'eau, etc. Oui,
c'est quelque chose qui va de soi, finalement.
Comment ?
C'est quelque chose, tout le monde est d'accord, ça va de soi, mais après, c'est pas quelque chose qu'on retrouve forcément dans les habitudes des gens.
Parce que, il faut un levier politique pour changer la nature des aides et aller vers cette agriculture qui protège la terre, l'eau, et etc. Et puis, en même temps, il faut avertir les consommateurs par rapport à ce qu'ils mangent, quoi. Hein. Et on parlait on a mis une taxe sur le sucre. Vous parlez d'une taxe, c'est pas du tout significatif. Il y a longtemps que les grands groupes, ils ont contrôlé cette taxe-là, et puis les gens, est-ce que vous imaginez l'augmentation de l'obésité actuellement? Ça vient de quoi d'après vous? C'est parce qu'il y a une mauvaise information sur les produits que les gens ils achètent.
Je pense qu'il faudrait qu'on refasse une émission, un débat sur les habitudes de consommation et sur l'agriculture bio. Je suis désolé, on va devoir avancer, mais on pourra en reparler, et ça nous est déjà arrivé d'en parler d'ailleurs. Maintenant, je voudrais plus rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, s'intéresser à l'agriculteur, à l'agricultrice en elle-même. Apparemment, 10%, un quart des agriculteurs sont célibataires. Comment est-ce que vous expliquez cette situation? Si vous l'expliquez.
Donc là c'est ce qu'on appelle la solitude, quoi.
Donc, c'est la solitude.
Là, c'est un vrai problème, et c'est là...
Je voulais vous amener à ça, parce que je vais balancer le chiffre derrière, qui est assez dramatique. Un agriculteur se suicide tous les deux jours.
Ouais.
Comment est-ce que vous expliquez ça? C'est justement la solitude?
J'ai un copain encore hier, qui a 57 ans, qui s'est suicidé, d'une part parce qu'il arrive à mal vendre ses produits, quoi, et puis il a pas été entouré. Alors justement, je vais encore mettre un accent sur nos réseaux. Nos réseaux proposent ce qu'on appelle des groupes d'appui locaux, hein, qui permettent d'entourer le paysan, mais avec d'autres collègues, mais pas que, aussi avec les citoyens, aussi avec les consommateurs, aussi avec les élus, et ça permet aux paysans de se sentir moins seuls. Alors bon, après, qu'ils restent célibataires ou pas, bon, c'est peut-être un autre problème, mais en tous les cas, qu'ils évitent d'être dans la solitude. Mmh. Et tout ça, ça va être expliqué samedi prochain au banquet paysan, et là, j'invite vraiment les jeunes et les moins jeunes, puisque visiblement, vous avez des éditeurs moins jeunes, à venir nous voir, et là, on va leur expliquer ce qu'il en est par rapport à cette agriculture paysanne de progrès. Quoi.
Baptiste, c'est quelque chose, la solitude que vous... Voilà, c'est quelque chose dont on vous a parlé, quelque chose peut-être qui vous inquiète pour plus tard.
Qui m'inquiète, quand je vois que tous mes voisins sont partis à la retraite, il n'y a qu'une exploitation qui a repris, tout est parti à l'agrandissement. Il y aurait pu y avoir un jeune qui s'installe, même pas, on peut faire de l'entraide, Mais aujourd'hui, on a des exploitations qui sont tellement importantes, ils n'ont pas le temps de sortir. J'ai un cas d'un éleveur, il fume, il achète 10 paquets pour qu'il fait le mois, et il sort une fois tous les mois juste pour aller acheter des cigarettes.
C'est aussi des conditions de travail très différentes.
Il y a ça aussi, mais la solitude,
c'est très prenante.
Je peux peut-être juste pour avoir peut-être un point positif, parce que je pense qu'on aime tous notre métier et puis on est tous contents de le faire. Alors c'est vrai qu'on a la solitude dans certaines régions. Alors je crois pas que le Maine-et-Loire on soit complètement isolé quand même quand on est agriculteur dans ce département, mais c'est vrai que moins on a d'agriculteurs et plus on est espacé entre nous et puis plus la solitude elle se crée. Après on essaye, en tout cas il faut absolument pour que les agriculteurs se sentent moins seuls, que les CUMA, alors les CUMA, c'est des coopératives d'union de matériel agricole qui sont très développées dans le département, qui en tout cas continuent à exister parce que c'est encore un lien social entre les agriculteurs. Mais il faut quand même voir qu'aujourd'hui, les jeunes qui s'installent, ils ont d'autres attentes. Et aujourd'hui, on a une agriculture et les jeunes qui s'installent évoluent un petit peu, et notamment c'est les orchestres familiales qu'on a pu parler en début d'émission qui font changer les choses. Et on a de plus en plus de jeunes qui viennent et qui nous disent « moi, je veux être agriculteur, mais je veux quand même prendre des vacances, je veux quand même prendre des week-ends ». Et ça, ça se développe. Et ça, c'est très bon signe pour l'agriculture. Et je voulais finir là-dessus parce que c'est important. Les jeunes aujourd'hui qui s'installent en agriculture le font par choix et par passion. Quand on s'installait il y a 20 ou 30 ans ou il y a 40 ans, souvent on s'installait par choix ou par passion, mais on s'installait aussi parce qu'on devait prendre la suite de ses parents.
Il y avait une pression familiale.
Voilà, il y avait une pression. Et là, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Alors, ça peut être le cas ici ou là, mais ce n'est plus le cas. Et aujourd'hui, on s'installe vraiment par choix, et donc du coup, c'est un vrai projet de vie, et qu'on réfléchit vraiment comme un projet de vie.
Pour terminer, on peut aussi dire une autre chose positive qui a évolué, c'est qu'en 2010, les femmes exploitaient un quart des exploitations françaises. C'était 8% en 70, c'est aussi une évolution. Et on va également rappeler que la Confédération Paysanne, vous l'avez pas mal rappelé quand même, mais on va le redire, qu'il y a donc ce banquet paysan, qui se tient sur l'esplanade du quai samedi, et donc où on pourra déjà en savoir plus sur vos actions et puis se renseigner sur ce que vous préconisez, c'est-à-dire une agriculture paysanne donc plus tournée vers l'environnement, plus tournée vers un lien social.
Alors effectivement, donc plus tourné vers le lien social, ce qui nous paraît plus important, surtout en période de chômage, quoi. Donc sur le côté pratique des choses, donc effectivement, ça se passera donc le banquet paysan sur le quai, en face du théâtre, le quai. Symboliquement, le repas il sera à 1 euro, parce que l'idée c'est d'associer le grand public à notre agriculture, puisque comme je disais tout à l'heure, c'est ce qui nous intéresse, nous c'est les citoyens. C'est pas de vendre la Confédération paysanne, c'est pas ça du tout. C'est surtout de faire appel aux citoyens, de voir ce qu'on peut faire en agriculture paysanne de progrès.
Merci Joël Boissard. Et Antoine Lardeux, un dernier truc très
rapide. Dans la complémentarité de ce qui va être fait par la Confédération Paysanne, on sera aussi nous présents le 16 mai au ralliement et Place Molière pour présenter l'innovation de l'agriculture et l'évolution de l'agriculture, en tout cas par les jeunes, avec des burgers français, angevins, qui seront proposés aux angevins le 16 mai.
Merci à vous et j'espère reparler prochainement aussi de nos habitudes de consommation. Pour l'instant, on écoute Courtney Barnett.
You said we should look out further. I guess it wouldn't hurt us. We don't have to be around all these coffee shops. Now we got that percolator. Never made a latte greater. I'm saving $23 a week. Drive to a house in Preston. We see police arresting a man with his hand in a bag. How's that for first impressions? This place seems depressing. It's a Californian bungalow in a cul-de-sac. Got a lovely garden, a garage for two cars to park in, or a lot of room for storage if you've just got one. And it's going pretty cheap, you say. Well, it's a deceased estate. Aren't the pressed metal ceilings great? Shower, a collection of those canisters for coffee, tea, and flour, and a photo of a young man in a van in Vietnam. it down and start rebuilding. If you've got a spare half a million, you could knock it down and start rebuilding. If you've got
le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Elle a 100 jours pour entreprendre, nous dit le concours auquel elle participe. Bérangère Cato fait partie des deux projets du département qui participent donc à ce concours proposé par le mouvement des jeunes entrepreneurs. Bonjour, ou plutôt bonsoir Bérangère Cato.
Bonsoir.
Peut-être qu'avant donc de nous parler de votre projet de café culturel associatif, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur vous, votre âge, votre formation? Vous êtes d'Angers?
Oui, je suis sur Angers depuis un peu plus d'un an et j'ai 23 ans. J'ai fait un parcours en université, un DUT sur Tours, en carrière sociale, animation sociale, socioculturelle, et une licence professionnelle sur Toulouse, en coordination de projet, toujours dans l'animation et le culturel, l'associatif.
Et Angers, vous avez l'habitude de traîner en ville, dans les cafés-concerts, dans les lieux culturels, justement? Est-ce que vous avez des adresses de prédilection déjà?
Sur des cafés-concerts, bah, j'ai pas encore trouvé le café qui me convenait.
Ah ouais?
Voilà, je teste un petit peu, mais non, pour l'instant, j'ai pas encore de café-concert habituel.
Le Terro Coco, le Joker's Pub, qu'est-ce qui manque là-bas, selon vous?
Je sais pas si c'est dans le style musical proposé ou juste dans l'ambiance du lieu, mais pour l'instant, c'est pas encore le lieu où je me sens à l'aise et où j'ai envie...
D'accord.
Passer tout le monde.
Et donc, vous allez monter, pour remédier à ça, en tout cas essayer de monter un café culturel, un projet qui s'appelle donc le bazar café, puisque, si je dis pas de bêtises, il y a déjà un bazar qui se retrouve rue Parcheminerie.
Ouais.
Le principe, donc, un café culturel tourné vers l'agriculture locale. C'est marrant, on en parlait juste avant.
Ça tombe bien.
Vous pouvez développer justement sur le concept, comment ça va se concrétiser, ça?
Dans le concret, notamment autour de l'agriculture locale, l'idée, c'est de faire des partenariats avec des agriculteurs et des producteurs locaux. Donc, qui font des produits dans un rayon de 200 km autour d'Angers. On va rester très large. Voilà, d'établir avec eux un lien où il y a un esprit que eux, dans leur agriculture, prennent une attention à la qualité des produits. Et nous, en échange, on vend leurs produits, on essaie de les mettre en avant dans le café et d'avoir une vraie relation avec eux.
Et ça, c'est quelque chose aussi, vous disiez, ne pas retrouver ça dans d'autres cafés-concerts, il y a quand même, dans d'autres lieux culturels à Angers, il y a quand même le Brin Folk, je pense, notamment avec les vignerons, le Bar du Quai avec certaines brasseries. Vous, ça serait aussi sur l'agriculture, de la nourriture aussi?
Dans l'idéal, ce serait ça, ouais. Ce serait aussi, justement, pas que autour de la boisson, mais aussi que ce soit pas forcément des cacahuètes, mais des grignotages faits dans les environs.
Et pas seulement livrés comme ça aux gens, mais avec une sensibilisation derrière. Les agriculteurs qui étaient avec nous tout à l'heure disaient que le public était toujours d'accord pour dire oui, l'agriculture locale et bio, c'est très bien, mais que dans les faits, finalement, c'était pas forcément vrai, qu'il manquait de sensibilisation. Est-ce que c'est aussi le but d'un lieu comme ça?
C'est tout l'intérêt, et puis c'est aussi mettre en avant l'agriculteur Enfin, il y a quelques AMAP qui existent sur Angers. Il y a un lien fort avec l'agriculteur où les personnes qui appartiennent à ces AMAP peuvent venir rencontrer l'agriculteur. Là, ce serait au sein du bar pouvoir visuellement voir l'agriculteur ou alors même le rencontrer autour de certaines soirées. Enfin, tout est encore à monter, mais il y a vraiment une volonté de faire un vrai échange avec
Et tout ce qu'on pourrait y consommer donc, serait lié à l'agriculture locale, hein, du café à la bière en passant par le vin.
Bah, dans la mesure du possible, oui.
Il y a des exemples concrets de produits que vous connaissez et que vous aimeriez mettre en valeur ?
Alors, je n'ai pas encore contacté d'agriculteurs, donc je ne vais pas donner de nom, mais il y a des possibilités sur du café. Il y a du café qui est torréfié dans les environs. Le café ne viendra pas de France, mais il sera au moins transformé dans les environs. Dans les bières, pareil, il y en a qui sont faites juste à côté, que ce soit Bushmen ou ailleurs. Il y a vraiment des possibilités très, très importantes dans la région.
Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de ce lieu ? Est-ce que vous avez vu dans d'autres villes des lieux similaires qui fonctionnaient ?
Oui, il y a plusieurs lieux. Enfin, il y a un développement assez fort des cafés culturels et des cafés associatifs. Pour en avoir rencontré un notamment et pour y avoir été, c'est le café à Toulouse, le café Chez Ta Mère. Où ils sont au sein de la ville. Alors, ils sont peut-être un petit peu moins axés sur l'agriculture locale, mais ils y sont quand même. Le plan B aussi à Poitiers, que je dois aller rencontrer, fait aussi un esprit très, très local et travaille là-dessus. Donc il y a de l'idée qui vient de là. Et puis, il y a aussi toutes les rencontres que j'ai pu faire dans mes études et dans mes rencontres professionnelles diverses.
Est-ce que ce café pourrait aussi accueillir une scène, des spectacles, des concerts ?
Oui, alors c'est la deuxième partie. Mmh. C'est un côté scène.
Des concerts bio
Peut-être, pourquoi pas. Non, c'est dans l'idée toujours locale, accueillir tout le monde. Hein, y a pas de restrictions, j'ai pas envie de mettre de barrières, mais de privilégier d'abord des nouveaux artistes, donc des groupes qui se sont très peu produits.
Des groupes locaux ou
Et du coup, des groupes locaux ouais. En priorité. Après, je vais pas me fermer les portes non plus.
Ce que font les autres cafés concerts régulièrement.
Oui, tout à fait.
Mais ça ferait un lieu de plus, finalement.
Voilà.
Parce qu'il y a aussi, je pense aussi à d'autres lieux à Angers, même si ils sont moins nombreux, c'est aussi des cafés plus militants. Vous, il y a quand même une démarche sociale, une démarche de sensibilisation. Est-ce que vous vous sentez proche, justement, d'un lieu comme l'Étincelle ou de lieux qui aussi revendiquent des choses et sont là aussi pour être alternatifs avant tout?
Non, justement, le côté militant, je l'ai mis un peu de côté.
Ouais.
C'est pas quelque chose que j'ai envie de mettre en avant. Je porte mes valeurs, mais j'ai pas envie
de les imposer
aux consommateurs. Et voilà.
Si le consommateur vient avec, un t-shirt, je déteste l'agriculture locale, vous le laisserez rentrer quand même. Mais
oui.
Voilà, c'est pas d'accord.
Oui.
Bon, je sais pas si ça existe, ces t-shirts.
J'essaierai de le convaincre que l'agriculture locale, ça
vaut le coup. Mais voilà, il y aura un travail de. Oui. D'accord. Qu'est-ce qui peut être aussi envisageable ? Je ne sais pas, des ateliers créatifs, de la lecture ?
Oui, alors en plus donc, des concerts du côté local, je suis en train d'établir un partenariat avec l'École des Beaux-Arts et avec la licence en art plastique de l'UCO, en rencontrant des élèves pour l'instant. Pour exposer des étudiants ou des jeunes artistes qui ont envie de se produire, qui ont envie d'exposer leurs œuvres. Donc il y aurait un espace d'exposition accessible à des très jeunes artistes, débutants, plus ou moins. Et donc ça fait un petit truc en plus. Et en journée, j'ai l'intention de proposer des ateliers culturels ou créatifs.
Ouverts à tous également.
Ouverts à tous également, mais du coup plus à des gens qui ne travaillent pas en journée, donc étudiants ou personnes à la retraite ou sans travail.
Et ce lieu, s'il s'ouvre, il s'ouvrirait où et ce serait quoi le budget ? Quel budget serait nécessaire justement pour l'ouvrir et surtout pour le maintenir ?
Niveau budget, pour l'instant, on a un prévisionnel autour de 150 000 euros. Ce serait si jamais il faut acheter un bar, acheter un comptoir, acheter tout le matériel. Le budget le plus gros, c'est le local. Et pour le local, pour l'instant, on aimerait ouvrir en centre-ville.
Il y a des lieux à Angers que vous aimeriez reprendre ou des...
Bah pour l'instant, il n'y en a pas trop disponibles que j'ai pu voir. Il y a toujours la recherche de local, donc c'est passé dans toutes
c'est
les rues.
C'est dur à Angers de s'attaquer à ça, de faire du repérage et surtout d'après de...
Oui, quand on n'est pas du milieu, c'est pas forcément facile. Et puis ça demande du temps, ça demande du réseau et une recherche un peu constante. Voilà, c'est...
Et pour vous aider d'autant plus, vous êtes donc inscrit à ce concours 100 jours pour entreprendre. Ouais. Voilà comment ça va se passer. Le jury choisira sur dossier 20 projets parmi les 30 ayant obtenu le plus de votes. Ces 20 projets pitcheront en direct devant un jury composé de professionnels. Et le jury choisira les 10 meilleurs projets qui remporteront chacun ma boîte. Combien de votes est-ce que vous en êtes et combien est-ce que vous visez? Vous êtes bien placé, j'ai cru comprendre.
Oui, je suis sixième, je crois, dans les votes, si ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Et on est à 960 à peu près, 59-60, un truc comme ça.
Et vous avez des retours sur le projet, justement, déjà par des professionnels? Est-ce que vous avez été voir vous-même des patrons de café déjà à Angers ou pour,
bah, pas sur ou Angers, parce que déjà dans une logique de concurrence, je vais pas tout de suite leur dire je vais le faire si le projet n'est pas encore. Enfin voilà, il y a rien de lancé, c'est toujours sous la forme d'un projet, j'ai aucun financement qui a commencé. Après, en professionnel, j'ai pu rencontrer des personnes à la CCI qui ont pu m'informer...
Chambre de commerce et d'industrie.
Tout à fait. qui ont pu m'informer sur certaines démarches, sur la viabilité du projet aussi, sur des rencontres entre entrepreneurs aussi. Bah voilà, il y a des gens qui se disent « Ah bah oui, c'est un bon projet, ah bah tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça ». Il y a eu pas mal de retours pour l'instant plutôt positifs. Après, c'est toujours le questionnement associatif, pas associatif, où est l'intérêt La question pour les gens est souvent là.
Et pourquoi, d'après vous? Pourquoi les gens se posent cette question?
Mais parce que l'associatif peut faire peur aussi. Enfin, je suis la porteuse de projet.
Si l'associatif n'est pas rentable? C'est ça que les gens se disent?
Ouais,
les professionnels que vous rencontrez?
Ouais, c'est pas forcément cette idée-là qui leur... Enfin, les craintes que j'entends, c'est plus que je suis la porteuse de projet et que je vais devenir salarié de l'association.
Ouais.
Et que du coup, j'aurais pu la main mise sur les décisions de, finalement, mon association. Donc c'est plutôt là que les craintes se portent, plutôt que sur le côté financier qui peut...
De toute façon, vous comptez vous entourer très rapidement, si ça se concrétise, ouais, de ne pas porter le projet toute seule non plus.
Non, l'idée, c'est de mobiliser du monde et plutôt des gens qui sont d'accord avec mes idées.
Et si jamais ça ne fonctionne pas par le biais du concours 100 jours pour entreprendre, vous allez tenter l'aventure quand même?
Oui, 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 100 jours pour entreprendre, ça va être un bon coup de pouce. Enfin, voilà, la box de l'entrepreneur qui propose est intéressante et pourra participer au financement du projet, mais c'est pas la seule clé possible et dans tous les cas, je ferai toutes les démarches possibles pour le faire.
Très bien, et si ça se fait, ce serait... Vous envisagez ça pour quand? Allez, soyons un peu utopistes.
Ah, si on est super utopistes, d'ici fin 2015.
Fin 2015, la fin de l'année, quoi.
Bah, avant la fin de l'année.
Peut-être que d'ici fin 2015, vous pourrez donc trouver le bazar café. Merci, Amandine.
Bérangère.
Je pense que je vous ai appelé Amandine.
Je sais pas.
Mais Bérangère Cato, je pense que c'est la fatigue.
Ça doit être ça.
On a beaucoup parlé ce soir, mais on a bien parlé, on a pas mal parlé d'associatifs et d'agriculture locale. Merci, et puis si ça ouvre, on vous réinvitera pour en parler.
Ça marche, avec plaisir.
Raoul, quand tu veux.
Le récit de la Divine Comédie est
non,
rédigé
non,
à la première
personne. Bon, c'est pas grave, mets-moi une petite virgule, Raoul.
19h, 20h, yes. Le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Pas de soucis, je pense que c'est la fin de semaine et en plus on a eu que 3 jours cette semaine, donc voilà. Comme tu nous as déjà donné un petit aperçu, c'était la bulle sonore, mais juste avant je voudrais vous faire, si je m'y retrouve, et ouais, c'est compliqué, la perme de ce soir, ça se passe à l'espace culturel de l'université Saint-Serge. Dans le cadre du festival Artefact, la troupe des Didascalies présente le dîner de cons à partir de 21h, c'est 3€ l'entrée, et oui Raoul, on y arrive, on termine cette émission avec l'éternelle bulle sonore. Un moment campusien, écoutez. Mais allez, troisième essai, ça va être la bonne. C'était hier soir dans Pas de panique. Les geeks nous ont parlé de poésie.
Le récit de la Divine Comédie est rédigé à la première personne. C'est un putain de FPS, quoi. Au cours du voyage, Dante, il rencontre une centaine de personnalités, depuis les plus grandes figures mythiques de la philosophie antique jusqu'aux personnalités locales de son époque. Voilà. Donc il a pu rencontrer des philosophes, parmi lesquels Socrate, j'en cite alors que je sais même pas, mais voilà. Ce sont des personnalités qui ont existé, en tout cas. Et du coup, ce mélange de lieux imaginaires et d'expériences concrètes, bah, c'est à la fois le récit du parcours personnel de Dante, mais c'est également un manuel théologique chrétien. Ça fait une description de l'au-delà, en fait. Et puis, ça peut être également un roman qui est à valeur éthique et morale, parce qu'il y a des questions de plein de choses toutes plus saugrenues et poétiques les unes que les autres. Alors si je vous parle de cet ouvrage, dans Pas de panique, c'est tout simplement parce qu'il a inspiré le jeu vidéo, en plus d'avoir eu un impact donc considérable dans la musique, métal en l'occurrence, ou la littérature. J'ai donc réalisé une petite liste d'apparitions et références à cette œuvre dans nos jeux vidéo préférés, ou plutôt d'illustres inconnus au final, parce que les jeux que je vous citais sont pas forcément nos jeux de prédilection, en tout cas pas les miens. Voilà. Ça nous fait toujours des prétextes pour geeker un peu plus et pour retourner vers des jeux qu'on ne connaît pas.
Alors t'es content Raoul, tu l'as eu ta bulle sonore? Bon, si tu veux entendre l'émission en entier, pas de panique, tu peux la retrouver en entier donc sur le www.radiocampusangers.com, tout comme le podcast de ce sous-marin. Dans un instant, dès 20h, vous trouverez une rediffusion de l'émission Groupe Locaux Turbulence, et nous, on se retrouve, en tout cas vous retrouvez Tiffen, lundi à 19h pour un nouveau sous-marin. Passez une très bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Angers. Allez, bisous.
Retrouvez le sous-marin en podcast sur le www.radiocampusangers.com.